Bienvenue à tous ce soir sur le cours de F6KGL. Un cours de F6KGL donc encore en mode confiné, puisque en mode reconfiné. Et donc tout le monde est chez soi, y compris le prof. Donc je regarde vos messages sur le chat, et puis on va commencer ce soir. Donc nous voyons le dernier cours de réglementation avec la deuxième partie de la technique de base à connaître pour la partie réglementation. Et donc on va parler ce soir de ligne de transmission, de désadaptation et de compatibilité électromagnétique. Alors la CEM, donc c'est cette fameuse CEM, tout ce qui concerne les lignes de transmission et les désadaptations. Alors on va faire ça de manière très light, parce qu'en fait vous n'avez aucun background de technique, donc c'est un peu compliqué d'expliquer des choses sans parler de mathématiques et sans avoir certaines notions, notamment impédance, dont on va beaucoup parler. Donc on va faire des choses très très simples, mais évidemment toutes ces choses-là seront bien étudiées et bien approfondies quand on fera la partie technique. Alors premièrement, on va commencer par s'intéresser aux lignes de transmission. Une ligne de transmission, c'est ce qu'on appelle un dispositif en électronique, ou en tout ce qui est en technique, quoi. Et donc, la ligne de transmission, c'est un dispositif qui est utilisé pour transférer l'énergie, soit de l'émetteur vers l'antenne. Ça c'est quand on est en émission, et quand on est en réception, c'est de l'antenne vers le récepteur. Okay ? Dans nos installations, en règle générale, ça transite par le même câble, et donc soit on est en émission, soit on est en réception. Et donc, voilà. En revanche, quand on est en professionnel, on peut être à la fin. Il y a des câbles pour l'émission et des câbles pour la réception, puisqu'on a un émetteur et un récepteur qui sont séparés et qui fonctionnent en même temps, sur deux fréquences différentes, mais qui fonctionnent en même temps. Donc, notre ligne de transmission, pour nous, c'est essentiellement un câble coaxial. Donc là, le câble coaxial, c'est ce qu'on appelle le coax aussi, hein, tout simplement. Alors c'est une ligne qui est dite asymétrique. Pourquoi elle est asymétrique? Alors le préfixe A en français, ça veut dire que justement c'est pas symétrique. Donc quelque chose qui est asymétrique, c'est quelque chose qui dénote n'est pas symétrique. Et d'ailleurs on voit bien que c'est pas symétrique, puisque on a au milieu ce qu'on appelle l'âme, donc c'est un conducteur. Autour de cette âme, il y a un isolant qu'on appelle plus spécialement un diélectrique. Ça fait office d'isolant. Et au-dessus, on a une tresse ou un feuillard. Alors le feuillard, c'est carrément de la feuille de cuivre en règle générale. Et de la tresse, c'est de la tresse hein, qui est donc tressée autour de ce diélectrique. Cet ensemble forme un coaxial, et on voit bien que c'est pas symétrique, puisque on a l'un qui est à l'intérieur par rapport à l'autre. Et donc dans notre câble coaxial, on va avoir un courant qui va passer dans l'âme et un courant de même intensité mais de sens inverse, qui va passer dans la tresse. C'est-à-dire que si j'ai un courant qui va dans ce sens-là, donc dans l'âme, il va aller dans l'autre sens dans la tresse. Et inversement, évidemment. Ok. Même chose au niveau des tensions. Si j'ai une tension positive ici, je vais avoir une tension négative à l'intérieur de mon coax. Enfin, à l'intérieur de la tresse. Parce que ce qui est important, parce que la tresse, alors bon, évidemment, on joue au pouillème, hein, mais ce qui est important, c'est le diamètre de lame et le diamètre intérieur de la tresse. Alors pour le du câble coaxial, il y a pas grosse différence parce qu'on a la tresse ou le feuillard, c'est quand même assez fin. En revanche, quelquefois, ça peut être plus important, notamment sur du matériel professionnel. Où là, souvent, on utilise carrément des tubes. Et donc, quand on a des tubes, eh ben, les dimensions sont l'âme, le diamètre extérieur de l'âme, et pour la partie tresse qui est en fait un tube, c'est la partie intérieure, le diamètre intérieur de cette tresse. Et puis autour, eh ben, on a une gaine de protection, qui est en règle générale de couleur noire ou gris, voilà, et qui protège l'ensemble en fait. Ça protège notamment de la corrosion, parce que le cuivre, ça n'aime pas trop, notamment l'humidité, puisque, je rappelle, le cuivre, l'oxyde de cuivre, ça ne fait pas bon ménage avec les ondes radio, puisque l'oxyde de cuivre est un isolant. Voilà, donc ça c'est le câble coaxial, et puis on a des lignes dites symétriques qui sont utilisées par les radioamateurs encore de nos jours, mais essentiellement du côté de la HF, donc plutôt décamétrique. Et donc les lignes symétriques, c'est soit deux fils comme ça qui sont très proches l'un de l'autre, hein, très proches l'un de l'autre, et isolés ici par un isolant en règle générale. C'est du plastique, c'est plus précisément c'est du polyéthylène, le PE. Et pour certains cas, dans d'autres cas de figure, dans d'autres lignes bifilaires, eh bien, on a toujours ici un petit isolant ici qui est du polyéthylène, mais on a une grosse partie ici qui est de l'air. Si bien que ce qui isole les fils les uns des autres, ce diélectrique, ce n'est plus du polyéthylène, tout au moins s'en met beaucoup moins que dans cette partie-là. Ici, c'est essentiellement de l'air, et ici, essentiellement du polyéthylène. Et ce qui est important, c'est le diamètre, toujours le diamètre des conducteurs, et ici, l'écartement de centre à centre, l'écartement donc de mes deux conducteurs. Okay. Donc ça, c'est mes deux types de lignes de transmission. Et le transfert de l'énergie, puisque ce que l'on va faire, c'est transférer l'énergie, donc il faut faire en sorte que ce transfert d'énergie soit optimal. Et donc, on cherche les conditions dans lesquelles l'énergie, le maximum d'énergie est transférée. Soit l'énergie à l'émission, soit l'énergie à la réception. Parce qu'évidemment, si on perd de la puissance à l'émission, c'est tout ça de moins qui arrive à l'antenne. Et quand on est en réception, eh bien, c'est tout ça de moins qui arrive au récepteur et quelquefois, ça arrive noyé dans le bruit. Donc, pour que le transfert de l'énergie soit maximal, il faut que les impédances, on va voir ce que c'est juste après les impédances, de la charge, donc ce que l'on met au bout du coaxial et de l'émetteur, du générateur, donc il faut que cet ensemble, le câble coaxial, la charge et le générateur, tout ça ait la même impédance. Alors la ligne bifilaire, elle a une impédance grosso modo, on va dire simple, entre 300 et 600 ohms. Voilà. En fait, tout va dépendre de cet écartement-là, de l'écartement et du diamètre ici des conducteurs, mais essentiellement de l'écartement ici. Alors, les vieux, les très vieux, utilisaient non pas... en fait, ils utilisaient deux fils, vraiment deux fils cuivre, et séparés par des écarteurs, qui étaient la plupart du temps des petites plaquettes en bois. Voilà. Alors, évidemment, je ne vous raconte pas, dès que le temps est un peu humide, le bois a tendance à devenir un peu conducteur, et du coup, ça pose quand même quelques petits problèmes. Voilà. Voilà, donc l'idéal, c'est quand même d'utiliser ici des lignes symétriques de, de ce type-là. Alors, pourquoi utiliser des lignes symétriques plutôt que du câble coaxial? Eh bien, tout simplement, c'est à cause des pertes. Parce que les pertes, sur notamment les bandes décamétriques, sont beaucoup moindres avec une ligne bifilaire qu'avec une ligne coaxiale. Voilà. Plus on monte en fréquence, moins c'est vrai. Mais sur les bandes basses, c'est très... Enfin, notamment les ondes courtes, hein, la HF, on utilisera de préférence une ligne symétrique, sachant que c'est quand même un peu compliqué à faire fonctionner, puisque du coup, il faut que de l'autre côté, mon antenne, elle soit adaptée à cette impédance de 600 ohms ou de 300 ohms, ce qui n'est pas gagné. Alors qu'ici, mon câble coaxial, le standard pour le matériel d'émission, c'est 52 ohms. Et pour la réception, par exemple, le câble utilisé pour la réception, soit satellite, soit antenne télévision classique, c'est 75 ohms. On verra ça pourquoi quand on fera la partie technique. En tout état de cause, les lignes de transmission, donc que ce soit coaxiale ou ligne bifilaire, oui, j'ai oublié de dire, ça s'appelle ligne bifilaire. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'il y a deux fils. Voilà. Donc le nom officiel, c'est ligne bifilaire, et le nom qui n'est pas officiel, ça s'appelle échelle à grenouille. Si vous entendez parler de ça, et d'ailleurs on comprend bien le système, ce sont deux fils avec des écarteurs qui ressemblent un petit peu à une sorte d'échelle. Et donc, les anciens appelaient ça des échelles à grenouille. Alors, le câble coaxial peut-il être remplacé par du RJ45? Surtout pas. Surtout pas. Ça ne marchera pas. Et d'une, parce que le RJ45, les fils sont très fins, et donc pas possible d'utiliser beaucoup de puissance avec du RJ45. Deuxièmement, l'impédance, à mon avis, elle n'est pas bonne. Parce que du RJ45, de mémoire, ça doit faire dans les 600 ohms. Donc vous allez avoir des problèmes d'adaptation d'impédance. Alors, pourquoi utiliser une échelle à grenouille si c'est plus compliqué d'adapter l'antenne? C'est une très bonne question. Et en fait, ces échelles à grenouille, elles étaient surtout utilisées lorsqu'on avait des amplificateurs à tube. Puisque avec un amplificateur à tube, on avait des impédances qui étaient beaucoup plus élevées. Alors qu'avec les amplificateurs à transistor, au contraire, on va se retrouver dans des impédances très faibles, généralement autour de 10 ohms, et après, avec un système de transformateur, on remonte l'impédance pour arriver aux 52 ohms. Alors que dans les amplificateurs à tube, en règle générale, on arrivait tout de suite à la bonne impédance aux alentours des 300 ohms. Alors la G5RV, c'est une antenne très spéciale dont on va parler quand on fera, et même, on n'en parle pas ici parce qu'elle est trop compliquée à expliquer comment elle fonctionne. On en reparlera quand on fera la partie technique. Voilà, mais effectivement, il y a une partie, il y a un quart d'onde de 600 ohms sur une G5RV. Et c'est pour ça qu'il y a un bout de ligne asymétrique pour l'alimenter. Donc, la ligne de transmission a des caractéristiques qui sont propres, trois caractéristiques très importantes. La première, c'est son affaiblissement linéique. Alors, ça, c'est un gros terme pour dire elle a de la perte. Voilà. Et cette perte, on va voir comment elle se calcule plus précisément après. Deuxièmement, autre caractéristique très importante, c'est l'impédance du câble, qui lui dépend des dimensions du câble. Cette impédance, elle va se donner en ohms, alors que l'affaiblissement va se donner en décibels par mètre. Donc les décibels qu'on a vus la semaine dernière, on va les mettre en application là. Et enfin, troisième caractéristique, c'est important, c'est pas au programme de la partie réglementation, par contre on va en reparler quand on fera la partie technique, c'est la vélocité, c'est-à-dire la vitesse de propagation des ondes dans le câble. Puisque, je rappelle, dans le vide, les ondes se propagent à 300 000 km par seconde, et dans un câble, ça va beaucoup moins vite. Enfin, beaucoup moins vite. C'est autour de 200 000 km par seconde quand même. Mais voilà. Alors, le diamètre des fils en symétrique, bon, en fait, ce sont des diamètres assez classiques. Hein, c'est du 2,5 carré. Avec du 2,5 carré, on y arrive. Hein. Donc, ça fonctionne relativement... c'est pas des gros diamètres. Hein, c'est du fil. Hein. Tout au moins pour les puissances qui nous sont autorisées. Évidemment, si on monte en puissance... Il va falloir utiliser les plus gros fils. Et comme on n'a droit qu'à 500 watts en décamétrique, du 2,5 carré, ça suffit amplement. On va voir plus précisément ces caractéristiques techniques sur la page suivante. Alors, la perte, donc dans une ligne de transmission, elle est exprimée en décibels par unité de longueur. Alors, en règle générale, les constructeurs ils donnent des décibels pour 100 mètres. Il faut voir qu'un rouleau, une bobine de câble, c'est vendu par 100 mètres. Et en règle générale, les constructeurs donnent cette atténuation pour 100 mètres. Dans le cas des questions d'examen, on va vous poser la question quels sont les décibels par mètre. Mais c'est pareil. Par mètre, c'est juste 100 fois moins que pour 100 mètres. C'est juste ça. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Si un câble, c'est, on va dire, 6 dB pour 100 mètres, eh bien, ça fera 0,06 par mètre. Ça, au moins, c'est quelque chose qui est très simple, parce que on utilise des décibels. Si on n'utilisait pas des décibels, si on utilisait les rapports ce que l'on avait vu la semaine dernière, les rapports de puissance, eh bien on serait bien embêté. Et en utilisant des décibels, eh bien l'affaiblissement devient linéique, donc il est linéaire et il va être proportionnel à la longueur, tout simplement. Bon, donc on va voir des exemples juste après. Et il faut bien se rendre compte que l'affaiblissement, il est donné pour une fréquence. C'est-à-dire que le constructeur, il va vous dire, bah, pour telle fréquence ou pour telle bande de fréquence, en général c'est comme ça que ça marche, pour telle bande de fréquence, l'atténuation de mon câble est de temps par mètre. Et évidemment, plus on monte en fréquence, plus l'atténuation est importante. D'où le soin particulier à avoir avec des câbles quand on monte en VHF encore en 144, ça peut encore aller, mais en UHF et au-delà, faut faire très attention et mettre un peu d'argent dans le câble coaxial parce que voilà, il y a tout qui part en chaleur, voilà, tout qui part en chaleur, puisque tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'arrive pas à l'antenne, finalement, part dans le câble sous forme de chaleur. Voilà, donc c'est un peu dommage de faire chauffer, de chauffer les oiseaux juste. Et d'où l'intérêt aussi de, quand on a des préamplificateurs, de les installer au plus près des antennes pour finalement éviter de tout de suite perdre tout le signal qui était intéressant dans le câble coaxial. Donc les préamplificateurs, c'est pour ça qu'on les met en tête de mât au plus près des antennes. Même chose à la limite, si on voulait bien faire les choses, un amplificateur UHF, par exemple en 1200 mégas, eh bien souvent, il est plutôt installé en haut du mât, au plus proche des antennes, pour justement ne pas perdre la puissance dans le câble coaxial. Et effectivement, faut pas oublier non plus les connecteurs, on va en parler un peu après, puisque les connecteurs, c'est l'autre cause des pertes, à part le coaxial, c'est aussi les connecteurs. Voilà. Alors, donc ça c'est concernant les pertes. On va faire des exercices, enfin vous montrer quelques exercices après, c'est relativement simple. Il n'y a pas besoin de calculette. L'impédance, va dépendre finalement des dimensions de la ligne, donc des diamètres. Donc soit dans un câble coaxial, je me rappelle, je vais revenir sur mon câble coaxial ici, c'est le rapport entre le diamètre intérieur ici de la tresse et le diamètre ici de l'âme. Donc c'est ce rapport-là qui va déterminer l'impédance. Alors, il y a un calcul super compliqué dont on ne va pas parler ici. On verra ça quand on fera la partie technique. Il y a encore des logs, alors je vais vous perdre aussi. Deuxième, et pour la partie de ma ligne symétrique, ma ligne bifilaire, là, c'est le rapport entre la distance ici entre mes deux fils, donc cette distance-là ou cette distance-là, divisé par le diamètre du fil. Donc ça, c'est ce qui va me déterminer, enfin tout au moins une partie de l'impédance, puisque la deuxième partie va être déterminée par le matériau utilisé comme diélectrique. C'est-à-dire que selon qu'on va utiliser du polyéthylène, du téflon, de l'air, puisque je rappelle, ce type ici de ligne de transmission, le plus que l'on a en isolant finalement, c'est l'air. Le polyéthylène, là, il occupe une très petite place. On va dire que c'est 80% de l'air et le reste 20% de polyéthylène. Donc la partie la plus importante de mon isolant, là, c'est l'air. Voilà. Et donc, voilà. Du coup, je vais avoir. Pardon, je reviens encore là. Selon que j'utilise ici du téflon ou du polyéthylène et ou ici de l'air, eh bien je vais avoir des coefficients différents. Ces coefficients, ça s'appelle coefficient diélectrique. Encore une fois, on verra ça quand on fera la partie technique. Alors, une ligne bifilaire est symétrique. Asymétrique, impédance toujours 50 ohms ou toujours supérieure à 50 ohms. Alors, la ligne symétrique, elle est toujours supérieure à 50 ohms. Pourquoi ? C'est que mécaniquement, pour la faire à 50 ohms, il faudrait que les fils soient très près l'un de l'autre. Et donc, ça va être assez compliqué. Et donc, la meilleure solution, c'est d'utiliser une impédance un peu plus élevée, et donc des écarteurs, et donc avoir une distance entre les fils qui soit à peu près facile à utiliser. Alors juste pour vous donner une idée, si vous utilisez du Syndex, vous savez, c'est le petit fil électrique là qu'on trouve dans supermarché, où il y a deux espèces d'enrobage, deux gaines qui sont un peu collées l'une contre l'autre. Donc c'est vraiment très 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 proche l'un de l'autre. Et du syndex en 1 mm², deux sections donc les deux fils, ça donne 50 ohms. Donc c'est pour vous donner la dimension qu'il faut pour avoir du 50 ohms. Et en règle générale, quand on regarde les lignes bifilaires, elles sont beaucoup plus espacées. Il y a grosso modo 1 pouce, quoi. Donc 2,5 cm. Ah, le standard, c'est 1 pouce. C'est 1 pouce ou 1,5 pouce, hein, en règle générale. Voilà. Et tout ça, évidemment, ce ne sont pas des questions qu'on a à l'examen de réglementation. Hein. Tout ça, c'est du plus quand on va revenir à la technique. On reviendra dessus quand on fera la technique. Donc, cette impédance, donc, c'est quoi l'impédance? C'est le rapport de la tension et de l'intensité qui passe dans le câble. C'est-à-dire que on va mesurer les tensions et les intensités qui passent dans le câble, donc chacun des fils, et ce rapport de tension divisé par intensité, il est constant. Dans un câble, ce rapport est constant, quelle que soit la fréquence. Évidemment, l'impédance n'a strictement rien à voir avec la perte du câble coaxial. Si jamais vous prenez un ohmmètre et que vous mesurez 50 ohms, soit entre A maîtresse ou d'un bout à l'autre du câble, surtout, ce câble-là, vous le jetez. Il n'est pas bon. L'impédance n'est pas la résistance. Vous allez avoir aucun instrument de mesure qui va vous donner tout de suite comme ça l'impédance. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais, comme c'est un rapport tension sur intensité, et que la résistance est aussi un rapport tension-intensité, on va utiliser l'unité ohm, et pour ne pas les mélanger, on va appeler ça impédance. Voilà. Alors, donc, l'impédance n'a aucun rapport avec la perte du câble, et ce qui est très important, c'est que l'impédance, lorsqu'on a un signal, lorsqu'on a un générateur qui délivre un signal de 50 ohms, qu'on l'applique sur une ligne de transmission de 50 ohms, et qu'au bout on a une antenne dont l'impédance fait 50 ohms, eh bien, on a quelque chose avec un transfert de puissance optimale. C'est-à-dire que toute la puissance qu'il y a sortie d'émetteur arrive à l'antenne sans perte. Alors évidemment, les seules pertes, ce sont les pertes de la ligne elle-même, de la ligne en décibels par mètre. Parce que si ce n'est pas les mêmes impédances, en plus on va avoir d'autres pertes qui sont liées là avec une problématique qu'on appelle les ondes stationnaires. On va voir encore un peu après. Voilà. Non, mais ce qui est important, c'est de bien avoir conscience que il faut absolument que toutes les impédances soient absolument les mêmes sur toute la chaîne de transmission. Donc émetteur, câble et derrière l'antenne. D'où l'intérêt d'avoir une antenne qui fasse 50 ohms ou pas loin, parce que du coup, comme le câble il fait aussi 50 ohms, enfin précisément 52, et voilà, 50 ohms, et que l'émetteur aussi en règle générale fait 50 ohms, et bien en fait, dans un monde parfait, eh bien on est bon là. Évidemment, quand il y a un problème quelque part, un problème de désadaptation, ben c'est là que les problèmes commencent. Et enfin la vélocité, on en a déjà parlé rapidement. La vélocité, donc ça, elle va dépendre uniquement du diélectrique du câble. C'est-à-dire que selon le diélectrique que vous allez utiliser, vous allez avoir un coefficient de vélocité, donc un pourcentage de la vitesse de la lumière. Hein, donc quand on dit par exemple un coefficient de vélocité de 66%, c'est que la vitesse des ondes dans le câble n'est plus que de 66% par rapport à la vitesse de la lumière. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, 66% ça correspond à 200 000 km par seconde, ce qui est déjà quand même pas mal. Mais en tout cas, cette vélocité n'a strictement rien à voir ni avec l'impédance ni avec la perte. C'est encore quelque chose qui a à voir directement avec la matière dont est faite l'isolant. Et donc ce coefficient diélectrique. On en verra Alors, les changements d'impédance entraînent des pertes, effectivement. Voilà. On va voir ça un peu après. Premièrement, on va commencer par quelques questions. Alors, ce sont des questions qui ont été recensées à l'examen. C'est relativement simple, mais... Alors, le diélectrique, pour Cyril... Le diélectrique, c'est l'isolant. En français, le diélectrique, c'est tout ce qui va nous servir d'isolant. Et alors, quelle importance cette vélocité? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Elle va juste nous embêter dans les calculs de longueur de coaxial. Quand on a besoin, par exemple, d'un quart d'onde et d'un demi-onde. Alors évidemment, quand on parle de quart d'onde de longueur de coaxial, il va bien falloir tenir compte de cette vitesse de propagation dans le câble. Voilà, donc c'est juste ce problème-là. Mais c'est quand même un gros problème. Mon affaiblissement, alors, les questions autour... De l'affaiblissement linéique, à chaque fois on va se rattraper à ces neuf formules, enfin, tout au moins ces neuf rapports dont on avait parlé la semaine dernière, les rapports de puissance et les gains en décibels. Donc, par exemple, là, j'ai donc ici dessiné un câble coaxial, alors c'est dessiné comme on veut, hein, c'est un gros trait, comme ça. Donc ça c'est un câble coaxial, vous avez 10 watts côté émetteur, 5 watts ici en sortie, la longueur elle fait 20 mètres, et on vous demande l'affaiblissement linéique de ce câble. Voilà. L'affaiblissement linéique, on voit bien ici, j'ai perdu la moitié de la puissance. Ok. La moitié de la puissance c'est donc 1/2, je suis là. 1/2 c'est moins 3 dB, mais moins 3 dB pour 20 mètres. Et donc, je rappelle, mon affaiblissement linéique, c'est ma perte rapportée à l'unité de mesure. L'unité de mesure, c'est le mètre. Donc, je fais 3 décibels divisé par 20, puisque j'ai 20 mètres, et ça me donne 0,15 décibels par mètre. Et si je regarde sur le rouleau de câble de mon constructeur, il va m'indiquer pour la fréquence évidemment que j'utilise là, la fréquence ici de mon signal en entrée, et ben il va m'indiquer pour 100 mètres 15 décibels pour 100 mètres, puisque j'ai 0,15 dB par mètre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des affaiblissements linéiques, c'est complètement linéaire. Voilà. Deuxième. Question mais qui est bien pareille, hein. Enfin, c'est la même idée. Ici j'ai un émetteur, on me dit qu'il sort 25 watts, je me fous de savoir sur quelle fréquence ça se passe. Hein. On s'en fout complètement. J'ai un câble d'une longueur de 10 mètres, le constructeur m'annonce une perte de 0,3 dB par mètre. Quelle est la puissance en sortie? Donc, encore une fois, 0,3 dB multiplié par mètre multiplié par 10 mètres, puisque j'ai 10 mètres de câble. Donc ici, ça va me donner 3 décibels. Et 3 décibels, c'est ce que je viens de voir tout à l'heure, c'est une atténuation de la moitié de la puissance. Donc ici, de mes 25 watts, bah, j'ai plus que 12,5 watts. Et concrètement, eh bien, mon câble va rayonner, entre guillemets, servir de chauffage pour 12,5 watts. Alors, c'est pas un gros chauffage, vous me direz. Ça va peut-être pas chauffer les pattes des oiseaux qui se poseront sur le câble, mais voilà, ça va chauffer. Et va disparaître donc 12,5 watts. on va un peu plus loin, puisque maintenant on a à la fois le calcul de la perte dans le câble, le gain de mon antenne, comme on a vu la semaine dernière, et mon émetteur. Donc, je rappelle, la semaine dernière, on avait vu des exemples, mais avec un coaxial, enfin, tout au moins une ligne de transmission parfaite, c'est-à-dire sans perte. Il n'y avait rien indiqué, donc on suppose que c'était sans perte. Là, ça se complique un peu, parce que il y a des pertes dans la ligne de transmission. Donc en fait, il faut, heureusement, l'antenne elle a du gain, 9 dB, mais on perd de la puissance ici dans ma ligne de transmission. Donc ici, ma perte, encore une fois, 0,3 dB pour 10 mètres, c'est à peu près toujours les mêmes rapports. Et vous retombez à chaque fois sur 3, 6 ou 10. Hein, donc c'est assez facile. Bon, moi j'ai beaucoup pris 3, là j'aime bien ça. Donc ici, 3 dB de perte. Ici, mon antenne, elle fait 9 dB. Alors vous remarquerez que 9 dB, c'est pas un des rapports à connaître. Il n'est pas là-dedans, il est entre 6 et 10. Hein. Donc, il est au milieu, là, entre multiplié par 4 et multiplié par 10. C'est pas facile à estimer. Et ce qui va nous intéresser, là, c'est l'ensemble. Et donc, mon antenne, elle a 9 dB, j'ai une perte de 3 dB, donc l'ensemble, ça fait 9 moins 3, ça me fait 6 dB. Donc, ma puissance, elle est... j'ai 6 dB de plus. 6 dB correspond ici à un rapport de multiplié par 4. Donc mes 10 watts que j'ai en sortie d'émetteur se transforment donc en 40 watts PAR, puissance apparente rayonnée, puisque mon antenne ici, c'est pas indiqué, mais quand il n'y a pas marqué autre chose, généralement ce sont des dB doublés par rapport à l'antenne doublée. Et lorsque j'ai ici un gain qui est non pas en décibels doublés, mais en décibels ISO, mon calcul va être le même. Pour cet exemple-là, c'est encore plus simple, puisqu'on vous dit que la perte dans le câble, c'est 2 décibels. On peut dire perte dans le câble et les connecteurs. On va faire plus simple. Et donc... En tout, là, le gain de cet ensemble antenne moins perte dans le câble, ça me donne 10 décibels. Hein, 12 moins 2, ça me fait 10. Et 10 dB, c'est multiplié par 10 que j'ai ici. Donc mes 50 watts en sortie d'émetteur se transforment en 500 watts PIRE. Hein, puissance isotropique rayonnée équivalente. Donc comme si j'avais... La puissance que j'applique à mon antenne, je la dirige dans une direction privilégiée, et du coup, c'est comme exactement comme ma lampe torche que je dirige, mon faisceau, je le dirige dans une direction, ça éclaire très bien la direction, et puis quand on essaye de voir ce qui se passe un peu à côté, de droite et de gauche, on ne voit rien parce que c'est pas éclairé. Voilà. Et c'est exactement le même phénomène dans une antenne où on focalise la puissance dans une direction. Et évidemment, plus on réduit le faisceau, plus la puissance est importante. Voilà. Mais par contre, moins les côtés sont éclairés. Il faut choisir, il ne faut pas faire les deux à la fois. Alors, des questions... Alors, le coax qui rayonne, ça, c'est un problème qu'on verra quand on fera la partie technique. Parce que sinon, là, c'est assez compliqué. Donc, on va pas en parler aujourd'hui, mais effectivement, le problème du câble qui rayonne, c'est lié à la mauvaise adaptation entre le câble et l'antenne. Alors, le ROS, on n'en parle pas encore. on va y arriver. PAR, enfin, le calcul de puissance n'a pas de rapport avec le ROS. On va voir ce que c'est. C'est encore un autre... Et tout ça, on ne fait que d'effleurer les choses. On verra plus en détail quand on fera la partie technique. Alors, dernière question. Alors ça, c'est... Alors, il y a soit des questions ici, avec des schémas comme ça, soit des questions que j'appelle moi plus littéraires, où il n'y a aucun schéma, il faut juste lire la question. Et des fois, c'est un peu compliqué. Alors, soit un câble de 20 mètres ayant une perte de 0,1 dB par mètre, quel est l'affaiblissement de ce câble? Donc ça, 20 mètres et 0,1 dB par mètre, donc 0,1 fois 20, ça me fait donc 2 décibels. Voilà. Donc ça, c'est typiquement, par exemple, ça aurait été le câble que j'avais ici. Perte de 2 dB, ça pourrait être un câble de 20 mètres qui a une perte de 0,1 dB par mètre. D'accord ? Et donc ça, c'est 2 dB. À partir de là, on ne peut pas me poser plus de questions, puisque encore une fois, tout au moins dans la partie réglementation, puisqu'encore une fois, les seuls gains que je connais, ce sont les 9 qui sont là. Et c'est tout. Je n'ai pas le droit d'avoir d'autres questions sur d'autres rapports de puissance. Donc, mon 2 dB, on ne pourra pas me demander à quelle perte ça correspond en termes de puissance en sortie par rapport à une puissance d'entrée. En revanche, je peux imaginer qu'on demande, devant ce câble, je mets une antenne qui fait par exemple 1000 décibels. Et donc, dans ce cas-là, 8 décibels moins mes 2 décibels de perte, ça me fait 6 décibels. Et donc, ce 6 décibels, on peut me demander le calcul de puissance, puisque 6 décibels, c'est un des rapports que je dois connaître. Voilà. Et donc, on pourra, à ce moment-là, me demander la puissance soit apparent rayonné, la PAR, soit la PIRE, selon... en fonction de la puissance que je vais avoir en sortie de mon émetteur. D'accord ? Mais en tout état de cause, ni le 8 dB de mon gain de l'antenne, ni mon 2 dB ici de perte dans mon coaxial, on va me poser des questions en termes de puissance à partir de là. Puisque, encore une fois, ce 6 dB et ce 8 dB, enfin, ce 2 dB et ce 8 dB n'est pas à connaître. Le seul qui est à connaître, c'est le 6, donc la résultante. Voilà. Donc encore une fois, c'est des calculs qui sont assez simples, où il n'y a pas besoin de calculette, hein, parce que enfin, si c'est pour multiplier par 10, par 20 ou par 5, je pense qu'on peut le faire de tête. Et si ça peut vous déstresser, bah, vous sortez la calculette, mais c'est un peu bête, je trouve. Voilà. Ou pour faire par exemple 50 fois 4, bon, je pense que ça fait encore des calculs que l'on peut facilement faire de tête. Donc voilà tout ce que l'on peut voir autour des lignes de transmission. Maintenant, que se passe-t-il lorsque mes impédances ne sont pas partout identiques? Parce que ça, malheureusement, dans la vraie vie, voilà, c'est... Alors, la PIRE, il faut reprendre le cours de la semaine dernière, et la PIRE, c'est la puissance par rapport à l'antenne isotropique, c'est-à-dire l'antenne qui n'existe pas, qui émet uniformément tout autour d'elle, c'est-à-dire qu'en fait, son diagramme de rayonnement, c'est une sphère. Voilà. Alors que le doublet a un tout petit gain, puisque le doublet, il n'émet rien du tout dans le prolongement des bras. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une partie de la puissance qui est reportée de manière perpendiculaire au bras rayonnant. Voilà. Il faut reprendre le cours de la semaine dernière pour comprendre. euh, TOS et des adaptations. Donc lorsque l'impédance de la ligne n'est pas la même que celle de la charge, généralement, l'émetteur et le câble, on va essayer de faire simple, on essaye que les impédances elles soient bonnes. C'est-à-dire qu'en sortie d'émetteur, j'ai bien 50 ohms, que après je mets bien un câble de 50 ohms. Si évidemment je commence mal et que mon émetteur ne sort pas 50 ohms, mais je dis n'importe quoi à 100 ohms, et que je mets un câble n'importe quoi de 40 ohms, vous êtes sûr que les problèmes, vous allez les avoir dès le début. Ok ? Mais, en règle générale, on fait les choses intelligemment, et donc on va avoir un émetteur de 50 ohms et un câble de 50 ohms la suite. Si bien que la désadaptation, elle va se faire au niveau de la charge, donc au niveau de l'antenne. Okay ? Lorsque cette impédance n'est pas la même, il apparaît des ondes stationnaires. Alors ça va être généré automatiquement. Pourquoi ? C'est que le câble coaxial, comme je vous le disais tout à l'heure, par construction, il n'accepte qu'un certain rapport tension-intensité. Et donc si je ne lui donne pas exactement ça, eh bien il va générer lui-même des courants et des intensités pour compenser le fait que on ne lui fournisse pas la bonne impédance. Et donc ce retour, donc cette désadaptation, encore une fois, on verra beaucoup plus ça en détail quand on fera la partie technique. Parce qu'on aura tous les éléments pour comprendre. Et donc, c'est cette énergie qui n'est pas absorbée par la charge, elle va repartir dans l'autre sens, vers l'émetteur. Et donc, cette désadaptation, ça s'appelle comme ça, une désadaptation, ça se mesure par le coefficient de réflexion, qui est le rapport entre le courant qui est réfléchi, divisé, par le courant qui est émis, qu'on appelle aussi le courant incident. Et donc, soit on mesure du courant, soit on mesure la tension ou l'intensité. Évidemment, quand on mesure la tension réfléchie, on va mesurer la tension incidente. Et même chose, l'intensité réfléchie par rapport à l'intensité émise ou incidente. Donc ce rapport, ce coefficient de réflexion, donc on va l'appeler rho. Alors cette espèce de lettre là qui est un P mais qui n'en est pas un, alors je l'ai souligné, j'aurais peut-être pas dû le souligner, mais en tout cas c'est cette lettre là ici qui est non soulignée, et ça c'est la lettre grecque rho qui correspond au R grec minuscule. Donc ça s'appelle ρ, et donc c'est ce qui détermine le coefficient de réflexion. Ce coefficient de réflexion, alors, donc ça c'est le coefficient de réflexion, et quand on parle du TOS, donc le taux d'onde réfléchie, donc le ρ là c'est un rapport, donc par définition, il est toujours inférieur à 1, puisque ma tension, mon intensité réfléchie, peut pas être supérieur à ce que j'ai envoyé, ou alors il y a un truc. Hein, et en fait, ça peut être égal si à l'autre bout il n'y a aucune charge. Hein. C'est-à-dire que si à l'autre bout vous mettez rien du tout, votre câble coaxial vous le laissez comme ça, vous avez toute la puissance qui arrive au bout du câble, qui ne sait pas quoi faire, et qui fait demi-tour et qui revient à l'émetteur. Votre émetteur il va peut-être pas trop apprécier. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et donc, là, mon coefficient de réflexion, lorsque je le multiplie par 100, donc pour me donner un taux, par définition, c'est quelque chose par rapport à 100. Hein, puisque pour 100, c'est quelque chose par rapport à 100. Et donc, le TOS, c'est 100 fois ce rapport Rho. Je vais virer ça, ça m'énerve. Voilà. Et juste un truc, le TOS, ce n'est pas le taux de puissance réfléchie. Le TOS n'est indiqué nulle part sur vos instruments de mesure. Ce qui est indiqué sur votre instrument de mesure, c'est souvent le taux de puissance réfléchie et le ROS, qu'on va voir juste après. Mais le TOS comme le coefficient de réflexion est rarement indiqué sur les instruments de mesure, enfin sur le réflectomètre, en clair. Donc un TOS-mètre, malgré son nom, il n'indique pas le TOS, il indique le ROS, le taux de puissance réfléchi, mais jamais le TOS. Donc voilà, ça c'est la désadaptation. Donc on peut la mesurer donc avec des tensions et des intensités, mais aussi on peut la mesurer d'une autre manière en mesurant le rapport des impédances. Donc le rapport de l'impédance au niveau de la charge. Évidemment, si vous avez aussi une désadaptation entre votre émetteur et votre ligne de transmission, vous allez aussi avoir du ROS généré à cet endroit-là. Et là, ça se complique. Alors, SWR, Standing Wedge Ratio. Donc, alors ça, c'est un mot anglais. Nous, on utilise en français le rapport d'onde stationnaire, ça marche très bien. Alors, juste pour information, ce qui est cité dans le texte de réglementation qui fixe donc le programme de l'examen de réglementation, c'est uniquement le TOS. Le ROS n'est pas cité. Donc, mais pour autant, il y a des questions. Hein. Et visiblement, dans les dernières versions qu'on a reçues de la modification de l'arrêté, là, il semblerait qu'on ne parle plus du ROS, de remplacer le TOS par le ROS. Voilà. Mais en tout cas, il y a des questions sur quoi. Alors, acronyme SWR, Standing Wedge Ratio. Donc, Standing Wedge, des ondes stationnaires, et ratio, rapport. Voilà. Et voilà, Ludovic qui a répondu. Donc, le ROS, c'est le rapport. Alors, le ROS, déjà, c'est un rapport qui est supérieur à 1. Or, vous savez que la charge, elle peut être inférieure à l'impédance du câble coaxial ou supérieure à l'impédance du câble coaxial. Et pour autant, il y a toujours du ROS. Donc en fait, ce que l'on va faire pour que ce nombre soit supérieur à 1, on va toujours mettre l'impédance la plus forte en haut et l'impédance la plus faible, donc la plus forte du câble ou de la charge en haut et la plus faible du câble ou de la charge en bas. D'accord ? Juste pour votre information, parce qu'il y a eu quelques questions tordues dessus. Vraiment très tordues. Ici, vous avez la transformation du ROS. Parce qu'évidemment, ici, quand on parle d'impédance, je rappelle, impédance, c'est rapport de tension sur intensité, et mon TOS, ici, c'est bien des tensions et des intensités. Donc on va bien voir arriver le truc, on peut passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire du ROS au TOS, ou tout au moins au coefficient de réflexion. Évidemment, du coefficient de réflexion au ROS. Les deux sont liés, c'est un rapport mathématique. Encore une fois, on va voir ça quand on fera la partie technique, parce que c'est très compliqué. Même dans la partie technique, ça fait partie quand même des points assez compliqués. Alors, comment le ROS et le TOS peuvent avoir un rapport, puisque le TOS ne concerne qu'un élément de la chaîne, et le ROS concerne les deux éléments de la chaîne. Mais oui, mais le problème, c'est que quand on parle ici de cette tension qui est réfléchie, c'est la conséquence de la désadaptation et donc de ce rapport de, d'impédance qui n'est pas le même. Finalement, cette tension réfléchie, là, sa cause, c'est la désadaptation et donc l'euros qu'il y a eu avant. Donc, ces deux éléments sont bien liés. Hein, sont bien liés. On verra plus ça quand on va faire la partie technique. C'est quand même super compliqué. Hein, ça fait partie, ça, des choses qui vaut mieux, enfin, qui, à mon sens, devront être plutôt apprises par la suite que pour passer l'examen. Parce que si, enfin, je vous, voilà, je ne vais pas vous dire que, à la fin de l'année, vous allez parfaitement comprendre la relation ROS-TOS, vous allez avoir ça sur le bout des doigts. Je vous mentirais si je vous dis ça, et en plus, franchement, pour passer l'examen, ça n'a pas de, ça n'a aucun intérêt, parce qu'il n'y a aucune question dessus. Et voilà, si ça vous intéresse, travaillez, mais bon, peut-être pas sur des points aussi précis que ça. Ici, je vous ai mis les différents ROS, avec ici le taux d'onde stationnaire, qui correspond donc au rho, hein, c'est la même chose. Hein. Et ici, le taux de puissance réfléchie. Taux de puissance réfléchie, on n'en parle pas, on fera ça quand on fera la partie technique. Alors, pourquoi appelle-t-on ça des ondes stationnaires? Alors, je vais vous passer une petite vidéo. Alors, si ça veut bien marcher. Alors, voilà, donc sur Firefox, nous y voilà. Donc superposition de deux ondes se propageant en sens contraire. Je fais une pause. Vous voyez ici l'onde ici qui est apparue. Ça c'est l'onde de, d'émission. Et ça c'est l'onde de qui a été réfléchie sur sur ma charge. J'y vais pas à pas. Donc ici, ce que je vais visualiser, l'onde résultante, c'est donc l'addition, puisque concrètement, quand vous allez mesurer la tension dans votre câble coaxial, vous allez mesurer l'onde résultante. Vous n'allez pas pouvoir facilement différencier l'onde émise de l'onde réfléchie. Ou alors, il faut avoir justement un réflectomètre qui permet de différencier les deux. Mais dans le câble coaxial, vous ne pouvez pas les différencier puisque les deux vont se superposer. Donc, je continue en pas à pas. Et donc, vous voyez ici, là, ça s'additionne parfaitement. Okay. Je continue. À un moment, ici, ça va devenir zéro. Okay. En revanche, ici et ici, si vous regardez bien, ça ne va pas bouger, c'est ce qu'on appelle ici un nœud. Et ici, où je vais avoir les maximums, ça va bouger tout le temps, mais je vais avoir un maximum ici, et puis ça va se répéter régulièrement. Je vous le mets maintenant en continu. Et voilà. Donc en bleu, c'est votre résultante, ce qui est vraiment dans votre câble coaxial. Vous remarquez que ce point-là ici ne bouge pas, ce point-là non plus, ce point-là non plus, etc., etc. Et ce qui va bouger, ce sont ici, c'est... pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est planté sûrement. Voilà. Voilà, donc ici, vous avez ici des ventres. Et donc, quand on parle d'onde stationnaire, c'est cette résultante, parce qu'on a l'impression que l'onde, elle ne bouge pas. Elle est stationnaire, alors que j'ai une onde qui est émise dans un sens, en rouge, Alors, en vert, là, on voit bien, en vert, elle avance tout doucement, et en rouge, elle part dans l'autre sens. Et la résultante, elle, eh ben, elle ne bouge pas. Donc ça, c'est un phénomène physique, et c'est ce qui se passe réellement dans le câble coaxial. Je vais revenir sur le PDF. Je pense que c'est peut-être un peu plus clair pour vous maintenant. De savoir ce que c'est que ces ondes stationnaires. Alors encore une fois, ce n'est pas au programme de l'examen de réglementation, mais au moins ça permet de visualiser, de comprendre ce que c'est. Alors, évidemment, des questions sur le ROS et le TOS. Le ROS, ben, c'est toujours la même chose. J'ai un émetteur de 50 ohms, on va aussi supposer que le câble il fait 50 ohms de la même manière. Une antenne ici de 100 ohms, et on me demande quel est le ROS. Ben, le ROS, c'est 100 divisé par 50, ça me fait 2 sur 1. Et surtout pas un demi. Parce qu'évidemment, un demi, vous allez l'avoir dans les réponses. Mais on veut toujours un rapport supérieur à 2 sur 1. Donc, voilà. Donc ça, c'est le ROS et le TOS, ou le coefficient de réflexion, c'est pareil. Hein. On vous dit à l'entrée d'un câble, on mesure une tension incidente de 20 volts et une tension réfléchie de 5 volts. Alors, incidente, ça veut bien dire émise. Hein, la tension incidente, c'est la tension émise. Incidente, c'est un terme technique qui veut dire tension émise. Donc, on a donc un 5 volts réfléchis et 5 volts émis. Donc le coefficient de réflexion, c'est 5 divisé par 20. Donc c'est 25%. Alors, vous pouvez prendre la calculette si vous voulez, mais enfin bon, c'est un peu dommage, quoi. Si ça peut vous rassurer, prenez votre calculette. Donc 5 divisé par 20, ça fait 0,25. Et évidemment, il faut multiplier par 100 pour avoir le TOS. Donc 0,25 par 100, ça fait 25%. Et donc, là, je l'ai mis en italique, c'est pour vous que vous ayez une idée de ce que ça veut dire derrière. Là, pour calculer le TOS à partir des puissances, parce que souvent, c'est ce que va indiquer votre réflectomètre, c'est la puissance, c'est pas la tension. Donc, même question, avec 20 watts de puissance émise et 5 watts de puissance réfléchie, eh bien là, on va pas du tout utiliser la même formule, du moins presque pas, puisque on va non pas utiliser ρ égale U réfléchi sur U émise, mais on va utiliser la racine carrée de la puissance réfléchie divisée par la puissance émise. C'est bien qu'on va utiliser finalement la racine carrée de 0,25, et la racine carrée de 0,25, alors là, pour le coup, si vous utilisez votre calculette, ça ne vous choquera pas, ça fait 0,5, même si c'est simple, et 0,5 du coefficient de réflexion, ça me donne un TOS de 50%. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur vos réflectomètres, les réflectomètres comme ça analogiques, le quart de la puissance, il est à la moitié de l'échelle. Donc ça c'est le fait d'utiliser de la puissance comme mesure au lieu d'utiliser la tension. Donc si on utilisait la tension, ben, évidemment on serait à la moitié de l'échelle. À 50%. En revanche, comme on utilise ici la puissance, eh bien, ici, on est à 25% de la puissance. Donc ça, on verra ça. On en a déjà perdu 4. Oui, mais c'est un peu compliqué, mais heureusement, il n'y a pas de questions. Tout au moins, j'en ai vu une fois des questions à l'examen sur les rapports de puissance qui pour déterminer un TOS. Mais c'est tout, pour moi, c'est plutôt une question qui est redevable de la partie technique de l'examen. Alors, pour continuer dans les adaptations d'impédance. Alors, pourquoi la formule de la puissance utilise la racine carrée? Parce que P égale U2 sur R, ou P égale RI2. Et donc, on verra ça quand on fera, dans pas longtemps. Mais voilà, donc la puissance, à chaque fois, soit on sait l'intensité au carré ou la tension au carré. Donc automatiquement, quand on veut récupérer la puissance, eh ben, il faut faire la racine carrée, quand on parle d'une formule qui parle de la tension, ben, faut utiliser la racine carrée. Donc on fera ça quand on fera la partie technique. Donc pour adapter les impédances, il y a plusieurs solutions. Soit on utilise une astuce qui est la boîte de couplage, qui est donc plutôt du côté émetteur, et la boîte de couplage, c'est un système un peu tordu qui va faire que on va désadapter l'impédance de ce côté-là pour envoyer cette désadaptation côté antenne. Donc la boîte de couplage, c'est un système assez tordu. Hein, donc en fait, je décale mon problème et je fais en sorte ici d'avoir un mauvais couplage, de changer l'adaptation juste derrière l'émetteur, si bien que ma ligne de transmission, il va y avoir des ondes stationnaires. Mais ces ondes stationnaires vont s'éliminer ici au niveau de l'antenne. C'est un truc un peu, c'est un truc un peu spécial. On reviendra dessus, peut-être même pas dans la partie technique, parce que c'est très complexe. Et donc, il faut avoir des bonnes connaissances mathématiques pour comprendre le truc. Et en plus, il n'y a pas de question à l'examen, donc on ne va pas non plus trop creuser. Mais en fait, l'idée, c'est ça. Donc, première chose, la boîte de couplage. Alors, en fait, la boîte de couplage, elle sert surtout à faire en sorte que votre antenne, l'émetteur, ait l'impression qu'elle est bien réglée. Voilà. Donc, il y a tout un système avec des bobines et des condensateurs à l'intérieur qui vont faire que ces bobines et ces condensateurs vont rattraper l'impédance qui pose problème à l'autre bout de la ligne. Voilà. Donc, du coup, dans la ligne de transmission, vous allez avoir des ondes stationnaires. Mais qui vont s'éliminer ici, au niveau de l'antenne. Deuxième système de couplage, enfin, d'adaptation d'impédance, c'est ce qu'on appelle ici le balloon, que vous avez ici. Alors ça, je vous ai mis, je vais vous faire un zoom quand même, pour vous montrer ce que c'est qu'un balloon à l'intérieur. Alors ça, c'est un vrai balloon, c'est un balloon 1 sur 1 avec 3 fils. Hein, on reconnaît les balloons des 1 sur 1. Les vrais 1 sur 1, c'est que il y a 3 fils. Vous avez soi-disant des balloons 1 sur 1, mais qui sont faits avec du câble coaxial. C'est pas vraiment du 1 sur 1, c'est ce qu'on appelle un choc balloon. Donc on verra ça quand on fera la partie technique, encore une fois. Ça, c'est un vrai 1 sur 1. Quand il y a 3 fils, c'est un 1 sur 1. S'il n'y a que 2 fils, c'est soit un 1 sur 4 ou un 1 sur 9. Là, on voit bien qu'il y a 3 fils. Donc ça, c'est du 1 sur 1. Ce qui veut dire que vous avez ici 50 ohms et j'alimente ici mon antenne. Alors à quoi ça sert, ça ? Eh bien, ça sert notamment à ce que quand mon antenne n'est pas complètement symétrique. Parce que mon problème, c'est que mon antenne, on avait vu, rapidement la semaine dernière, que l'antenne, il fallait qu'elle soit éloignée de tout obstacle, du sol, d'un mur, d'un arbre, etc. Et donc, si l'antenne elle n'est pas dans cette configuration idéale, il y a toutes les chances qu'elle ne soit pas symétrique. Et en plus, le câble que je vais utiliser, c'est du câble coaxial, qui est par nature asymétrique. Donc si je rajoute ça au problème, je vais ici alimenter une antenne à peu près symétrique, ou pseudo-symétrique, avec un câble qui n'est pas symétrique. Donc je vais avoir tous les problèmes qui vont se liguer contre moi. Alors, je vous rassure, ça marche très bien sans ballon. Le problème, c'est que vous risquez d'avoir ici des problèmes, typiquement quand il y a de l'orage, vous risquez de vous retrouver du côté de votre émetteur, de ce côté-là, avec ici des tensions importantes entre âme et tresse. Alors que si j'utilise ici ce genre de ballon, eh bien toutes ces décharges électrostatiques vont être coupées. Voilà. Donc, ces ballons aussi, ça peut avoir, on peut avoir des rapports d'impédance différents de 1, c'est-à-dire que avec celui-là, je vais avoir 50 ohms à l'entrée et 50 ohms en sortie entre mes deux fils ici. Et vous remarquez que là, en théorie, j'ai pas 50 ohms, j'ai 73 ohms. Donc, ça va un peu poser problème, et donc du coup, 73 divisé par 50, ça me fait 1,5 de TOF. De ROS, pardon. Donc, c'est pas aussi génial que ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, et puis enfin, ici, je peux aussi utiliser ce qu'on appelle une ligne quart d'onde. Donc, je vois arriver les questions sur la G5RV, la fameuse G5RV, avec sa ligne quart d'onde qui alimente cette antenne, qui est ici. Une ligne quart d'onde, c'est donc du câble coaxial, d'une impédance différente de celle de la ligne de transmission, dont la longueur mesure précisément un quart d'onde. Ce qui veut dire que c'est valable pour une fréquence. C'est pas du multiband. Hein. Alors, un ballon. Un ballon, ça veut dire en anglais balanced, unbalanced. Donc il y a un côté qui est balancé, donc équilibré, et l'autre côté qui est unbalanced, donc qui n'est pas équilibré. Le côté équilibré, c'est ce que l'on a sorti, la sortie antenne ici de chaque côté, et la sortie unbalanced, c'est la côté coaxial. Le coaxial, par définition, il n'est pas balancé, il est asymétrique. Alors là, la traduction exacte de balanced, de balloon, c'est symétrique, asymétrique. Donc, quand on parle d'un balloon un, donc il est unbalanced. C'est-à-dire que il est asymétrique en entrée, asymétrique en sortie. C'est pas du tout ce qu'il me faut ici pour mon antenne. Puisque moi, mon antenne, elle est symétrique. En revanche, les un, là, ce sont les fameux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que de compter le nombre de fils. Si c'est du coaxial qui est à l'intérieur, c'est un un. Donc c'est un unbalanced. D'ailleurs, la plupart du temps, vous avez une fiche de coax ici, une fiche de coax à la sortie. Donc ça, c'est du un. Donc unbalanced. Ce qu'on appelle aussi un choc balloon. Je l'ai vu passer là dans le fil de conversation. Et donc, effectivement, les un-un, c'est pour les antennes qui ne sont pas équilibrées. Alors là, je vous laisse partir sur tous vos délires. Qu'est-ce qu'une antenne qui n'est pas équilibrée? Parce que là, finalement, c'est quasiment toutes les antennes. Mais par nature, le doublet est une antenne équilibrée. Voilà, et donc la ligne quart d'onde, c'est cette fameuse... Alors, il y a eu quelques questions sur la ligne quart d'onde. Alors, la ligne quart d'onde, c'est un truc très tordu. Et ça, encore une fois, on expliquera ça dans la partie technique. C'est quand même très compliqué. Et donc, un quart d'onde ici, évidemment, attention, il faut tenir compte de la vélocité du câble. Hein, pour calculer ici cette longueur de quart d'onde, de ce que je vous disais tout à l'heure, la vélocité n'a pas grande incidence dans nos montages, si ce n'est sur la ligne quart d'onde, puisque ça va avoir une incidence sur la longueur du câble. Et donc, si on a en entrée ici 25 ohms et ici 100 ohms, quelle impédance de câble je vais utiliser pour pouvoir adapter ces deux impédances qui normalement ne devraient pas. Je rappelle quand même, si on a ces rapports-là, normalement on a un rapport, on a un ROS de 4 sur 1, par définition. 100 divisé par 25, ça fait 4, donc ça fait 4 sur 1. Pour éviter d'avoir cette problématique, on va utiliser ici un câble d'une impédance bien particulière. Cette impédance, c'est quoi? C'est la racine carrée de l'impédance d'entrée multipliée par l'impédance de sortie. Concrètement, je fais racine carrée de 25 fois 100, ce qui me fait racine carrée de 2500, et ça fait 50 ohms. Donc, si je mets ici un bout de câble de 50 ohms j'ai un émetteur ici qui fait 25 watts, un câble de 50 ohms qui fait pile poil un quart de longueur d'onde, et ici mes 100 ohms, eh bien, je suis adapté. Qu'est-ce que c'est que ce miracle? Est-ce que ça marche toujours ce truc-là? Ce miracle, vous voyez, ici, vous avez une impédance, puisqu'il y a un rapport tension-intensité à cet endroit-là, et à cet endroit-là, qui est pile poil un quart d'onde plus loin, un autre rapport tension-intensité. Et donc, cette ligne quart d'onde, hein, puisque ici, c'est tous les quarts d'onde, alors j'ai ici un nœud d'intensité. Donc là, les maximums, les nœuds d'intensité, c'est toutes les demi-ondes. Et à l'intérieur, intercalé, j'ai des ventres d'intensité ou de tension sur ici, donc les maximums. Et les nœuds d'intensité ou de tension sont ici. Et donc, à chaque fois, il y a un quart d'onde entre ce maximum et ce nœud. Et encore un quart d'onde entre le maximum ici et le nœud que j'ai ici. Et encore un quart d'onde, etc., etc. Donc cette ligne quart d'onde, c'est typiquement lié à ce graphique-là. Que j'ai oublié de passer d'ailleurs sur Firefox. Voilà, que je vous repasse. Donc le quart d'onde, il est ici. Enfin, il y a la distance entre ce ventre ici et ce nœud qui est ici, ça fait pile poil un quart d'onde. Et ce phénomène, donc le nœud, se répète ici toutes les demi-ondes. De même que ici les ventres se répètent toutes les demi-ondes aussi. Voilà, donc c'est bien lié à ces problèmes d'ondes stationnaires. Je pense que ça commence peut-être à avoir quelques idées sur la question de votre part. On en a fini avec la technique et maintenant on va revenir à de la réglementation un peu plus simple, je dirais, moins compliquée. Alors je vais revenir sur mon PDF. Et on va parler de compatibilité électromagnétique. Alors c'est quoi ce truc-là ? Alors déjà, un, c'est difficile à dire, sans bafouiller. C'est lié avec ce qu'on avait vu dans la partie technique, les fameuses exigences essentielles. Alors celui qui arrive à dire « je veux des exiges 10 fois sans bafouiller », il a le droit de vouloir et d'exiger tout ce qu'il veut. Voilà. Ah oui, alors les neurones qui chauffent, alors j'ai basculé d'écran, mais peut-être qu'il faut rafraîchir la session YouTube de temps en temps, il faut la rafraîchir, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de visionnage en cours. Donc sinon, vous cliquez sur faites entrer sur le lien et normalement ça se remet tout seul. L'audio passe, mais des fois c'est la vidéo qui passe pas. Pour revenir au cours. Donc on parle de la compatibilité électromagnétique qui est définie, ça, au niveau européen. C'est pas défini au niveau mondial par l'UIT, mais ça a été défini au niveau européen par une directive européenne, la 2014-30-CE, et c'est le fameux logo CE, là, qu'on voit apparaître sur tout le matériel, tout ce qui est mis sur le marché européen, tout ce qui est mis en vente sur le marché européen. Que ce soit le matériel électronique évidemment, mais aussi les jouets, les masques actuellement, ils ont un joli logo CE, etc., etc. Pour ce qui concerne la partie radio, enfin, tout au moins le matériel électronique en règle générale, on s'appuiera sur la directive 2014-30-CE qui définit finalement ce qu'est la CEM, cette fameuse compatibilité électromagnétique. C'est écrit dans le texte, donc au moins comme ça c'est facile. Et donc la CEM c'est quoi ? C'est l'aptitude d'équipement à fonctionner, alors donc équipement pas spécialement radio, hein. Donc c'est équipement en cerne très général. Donc c'est l'aptitude d'équipement à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante, sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement. Donc en fait, en clair, c'est la cohabitation de tous les équipements qu'on peut avoir, que généralement plutôt électroniques, mais pourquoi pas autre chose. Ce qui est important, c'est est-ce que ça a une incidence sur les perturbations électromagnétiques ou pas. À partir du moment où un équipement est censé pouvoir produire des perturbations électromagnétiques, on se réfère à cette directive 2014-30-CE. En règle générale, évidemment, c'est du matériel électronique. Mais pourquoi pas une mobilette, typiquement. C'est pas vraiment du matériel électronique, et ben on va faire en sorte que quand elle passe dans la rue, et ben on n'entende pas, enfin qu'elle soit antiparasitée et qu'on l'entende pas passer. Voilà. Voilà. Alors ce fameux logo CE, on est bien d'accord, qui ne sert à rien, puisque n'importe qui peut s'auto-évaluer, y compris le balayeur de l'usine. Et donc avec ça. Et ça, c'est une autre histoire, ça. Et à partir du moment où le matériel est en vente sur le marché européen, il est obligatoire de porter le logo CE. Et donc, on est soit tenu de passer par un laboratoire indépendant pour se faire homologuer son matériel, ou alors on le fait par auto-évaluation, avec le risque de se retrouver poursuivi par un tribunal si des fois y a des problèmes, alors peut-être pas CEM, mais des problèmes de santé, d'accident, que sais-je. Voilà. Et on n'a pas obligation de auto-évaluer, enfin tout au moins on auto-évalue notre propre matériel radio, puisque c'est nous-mêmes qui pouvons le modifier ou même le créer. Donc on fait de l'auto-évaluation sans pouvoir passer par un laboratoire agréé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équipement ? Un équipement est un appareil ou une installation. Donc, une installation, c'est un ensemble d'appareils. Okay. Et donc, un équipement, c'est un appareil ou une installation, donc un ensemble d'appareils mis dans le commerce, donc en vente, en tant qu'unité fonctionnelle indépendante. C'est-à-dire que, typiquement, je m'explique, votre station, elle est composée d'une alimentation et d'un émetteur. On va faire simple. Okay. L'alimentation, elle doit porter le logo CE avec tout ce qui va bien autour de l'alimentation, enfin toute la réglementation autour des alimentations. Et votre émetteur va, lui, s'occuper de la réglementation côté émission et réception, mais pas côté, par exemple, renvoi de parasites dans le réseau EDF. Ça, c'est votre alimentation qui va faire en sorte que la norme, elle est... que votre appareil est à la norme. Ok ? Donc, vous voyez, c'est ça les différentes choses. Et évidemment, votre alimentation, par principe, elle ne doit pas rayonner. Enfin, je ne vois pas comment elle pourrait rayonner. Donc, voilà. Et effectivement, Cyril résume bien les choses. En gros, c'est est-ce qu'on embête son voisin qui regarde la télé pendant que je transmets ? Voilà. Donc, si on embête le voisin, c'est soit que notre émetteur est mal réglé, ou, deuxième possibilité, c'est que la télévision du voisin, elle n'est pas conforme non plus aux règles. Par exemple, son câble coaxial est pourri, ou son antenne qu'il a sur le toit, elle n'est pas orientée vers l'émetteur de télévision, enfin, typiquement. Parce que si son antenne de télévision elle est dirigée vers votre antenne et non pas vers l'antenne du relais de télé, évidemment, ça va peut-être poser des problèmes. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que la compatibilité électromagnétique, c'est le bien vivre ensemble. Et donc, une perturbation électromagnétique, ça c'est défini dans la directive européenne, c'est quoi ? Ça peut être... un bruit électromagnétique, donc un bruit, typiquement la moto qui passe dans la rue, c'est un bruit électromagnétique, parce que c'est pas une émission voulue, c'est un bruit. Un signal non désiré, donc ça, en revanche, c'est, je capte quelque chose que je ne dois pas normalement capter. Ou, alors là, je n'ai pas encore vu d'exemple, mais c'est prévu, une modification du milieu de propagation lui-même. À ma connaissance, je connais encore rien qui modifie le milieu de propagation. Mais voilà. Au cas où, c'est prévu. Alors, différence entre un bruit et signal non désiré, c'est le bruit. C'est du bruit. c'est un signal typiquement des CPL. Les CPL, c'est du bruit. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à démoduler. alors qu'un signal non désiré, bah, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement démoduler et donc qu'on peut recevoir. Un signal non désiré, c'est quand vous émettez et que bah, on vous entend sur la télévision du voisin qui n'est absolument pas prévu pour recevoir ce genre de choses. Voilà, un signal est un bruit civilisé, exactement. Et donc, appliqué à notre activité, la compatibilité électromagnétique, c'est quoi ? C'est la faculté d'un émetteur de ne pas perturber son environnement, donc, notamment les voisins, et d'un récepteur de ne pas être perturbé par son environnement. Donc ça, c'est plutôt la télé du voisin. Ou nous être embêtés par les CPL, par exemple, parce que bah, le CPL, il perturbe son environnement, et moi j'aimerais bien qu'il ne soit, et que mon récepteur ne soit pas perturbé. Quand on commence un peu à creuser, on s'aperçoit qu'il y a un peu de vocabulaire technique. Alors, des éruptions solaires peuvent modifier le milieu de propagation. Ça, c'est un peu tiré par les cheveux, puis qui c'est qui va aller faire un procès au soleil parce que il y a eu une éruption solaire. Là, on va un peu rigoler. Un peu de vocabulaire maintenant. Un récepteur a un certain niveau d'immunité par rapport aux perturbations causées par son environnement électromagnétique. C'est-à-dire que là, je me positionne du côté du récepteur et je me dis qu'il doit avoir un minimum de... il doit supporter un minimum de perturbations. Et si ces perturbations elles vont au-delà des limites de mon récepteur, eh bien, il dit qu'il a, dépassé son niveau d'immunité et donc il a dépassé le seuil de susceptibilité. Alors, la susceptibilité, c'est l'endroit, enfin, le seuil de déclenchement où on dit bah, c'est pas normal de, d'être gêné par ce type de perturbations. C'est le seuil de susceptibilité. Alors, le ronflement d'un transformateur, oui, effectivement, c'est que j'ai un bruit continu, un bruit de fond. Donc, c'est normal que ça passe par le micro. Désolé. J'arrive pas à retirer. Je suis dans une pièce un peu confinée. Et j'arrive pas à retirer ce bruit de fond. Donc, voilà. Et je pense que c'est lié. Et donc, quand on a des problèmes de susceptibilité, eh bien, on prend des mesures de durcissement, voilà, et pour justement descendre pour descendre ce seuil de susceptibilité. Les perturbations peuvent provenir de deux modes, soit elles sont dites conduites. Lorsque la perturbation est véhiculée par les conducteurs, typiquement ce qui passe par le câble coaxial. D'accord ? Donc ça, c'est les conduites, ou ça passe aussi par l'alimentation et ça revient par la ligne EDF. Donc ça, tout ça, ça fait partie des perturbations dites conduites. Et les deuxièmes perturbations, ce sont les perturbations dites rayonnées, donc elles ont été émises, rayonnées, par l'antenne ou pas d'ailleurs, ça peut être un autre, c'est le fait que votre, que votre émetteur n'est pas complètement blindé et que donc là il rayonne tout autour. C'est pas que l'antenne qui rayonne, c'est tout le système. Et donc, c'est une perturbation qui se propage dans l'espace environnant. Voilà. Et donc, c'est deux. Et donc, on peut essayer au départ de définir d'où provient la perturbation, est-ce qu'elle est conduite ou est-ce qu'elle est rayonnée. En fait, pour vérifier que la perturbation est bien rayonnée, en fait, il suffit de mettre l'émetteur ou le récepteur sur pile ou sur accumulateur, et comme ça on vérifie bien que la perturbation n'est pas conduite mais est bien rayonnée. Alors elle peut être conduite, par contre elle peut aussi arriver par le câble coaxial lui-même. C'est là que c'est un petit peu compliqué. Bon, ben voilà. Donc faut bien différencier les deux, mais encore une fois, il n'y a pas de question à l'examen là-dessus. Pour limiter les perturbations conduites, évidemment, il faut filtrer l'alimentation. Les découplages, alors là, c'est tout ce qui, on verra ça dans la partie technique, tout ce qui est les condensateurs, les filtres de découplage, dans les parties alimentation, notamment dans toutes les parties où on a de la puissance d'émission, il faut absolument faire en sorte que toutes les lignes d'alimentation de ces étages soient bien découplées, et donc pour éviter que la HF remonte jusqu'à la ligne d'alimentation, de là dans l'alimentation et donc dans le réseau EDF. Voilà. Éviter que les lignes de transmission, donc les câbles coaxiaux, longent d'autres câbles, comme par exemple le téléphone, la télévision, dans les gaines techniques lorsque on habite en immeuble. Idéalement, il faudrait passer par des gaines techniques qui ne sont réservées que pour les radioamateurs, et c'est quand même pas courant dans les immeubles modernes. Pour limiter les perturbations rayonnées, eh bien là on va mettre des blindages, notamment autour des étages de puissance, donc blindage chez de la ferraille, hein. On met ça autour pour éviter qu'il y ait des champs électromagnétiques, c'est un peu les cages de Faraday, quoi. Donc voilà. Et puis on va aussi utiliser des filtres en sortie d'émetteur, des filtres qu'on appelle des filtres passe-bas, qui vont bloquer les harmoniques en sortie d'émetteur. On verra. Les harmoniques, c'est toutes les fréquences qui sont multiples de la fréquence d'émission. Voilà. Donc les harmoniques ne peuvent être qu'au-dessus de la fréquence d'émission. C'est pour ça qu'on utilise des filtres passe-bas, et la fréquence de coupure, c'est la fréquence d'émission. Donc normalement, avec ça, on devrait limiter les perturbations rayonnées. Et dernière chose, à puissance égale, la FM provoque moins de perturbations que la modulation d'amplitude ou la BLU, qui est une forme de modulation d'amplitude. On peut aussi effectivement utiliser des ferrites dans le cas des perturbations conduites pour bloquer la HF. Deux autres sujets qui sont au programme, qui ont amené quelques questions, c'est l'intermodulation et la transmodulation. Des problèmes un peu particuliers. On va survoler ça très rapidement, parce que voilà, sans connaissance technique, vous allez avoir un peu de mal à comprendre de quoi on parle. Et la surmodulation, qui est un autre problème qui est lié à la modulation d'amplitude, n'est pas cité dans le programme de l'épreuve de réglementation, et j'ai pas non plus vu de questions là-dessus. Mais voilà. Donc, ces trois sujets, donc intermodulation, transmodulation, c'est des sujets, surmodulation, qui ressemblent un petit peu comme en termes de nom, il n'y a pas de question et c'est encore un autre problème. Alors, première chose, l'intermodulation. L'intermodulation, c'est un problème qui est soit à l'émission ou à la réception, et c'est un problème d'un étage qui n'est pas linéaire. Donc, typiquement, c'est souvent le dernier étage d'amplification qui n'est pas linéaire, si bien qu'on émet notre fréquence d'émission, tout va bien, mais aussi une autre fréquence. Et ça, c'est un peu plus gênant, une fréquence sur laquelle, évidemment, on n'est pas censé être. Et puis, du côté récepteur, le fait d'avoir des étages qui ne sont pas linéaires, il va y avoir des mélanges qui vont se faire et on va voir apparaître des fréquences un petit peu fantômes en se disant « mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là » Et en fait, il n'y est pas du tout, c'est le récepteur qui nous joue des tours. Et donc, quand on parle d'intermodulation, ce sont des mélanges. Un mélange, c'est quoi? C'est l'addition ou la soustraction de différentes fréquences. Exemple. On a deux fréquences à amplifier, A et B. Et donc ça, c'est dans le cas d'un émetteur. Mais dans le cas du récepteur, ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc A et B, c'est deux fréquences à amplifier. À la sortie de l'étage qui nous pose problème, qui n'est pas linéaire, en plus des deux fréquences amplifiées, franchement, ça amplifie les fréquences qu'on doit amplifier, quand même, ça serait un peu dommage, on va trouver A plus A et B plus B, donc ça, c'est les harmoniques 2, mais aussi A plus B et A moins B. Donc A plus A et B plus B, ça fait deux fois A et deux fois B, hein. ça va, mais vous allez aussi trouver A plus B et A moins B, qui sont des mélanges dits classiques. Parce que quand on va voir le programme de technique, on va parler des mélangeurs. Donc ça, c'est le mélange classique du mélangeur. Donc ça s'appelle une distorsion quadratique ou une distorsion paire ou une distorsion du second ordre. Trois termes pour parler de la même chose. Et puis enfin, vous allez aussi avoir des produits du troisième ordre, c'est exactement pareil, sauf que j'ai trois fréquences qui vont se mélanger. Évidemment, j'en ai que deux à l'origine. Vous pouvez dire, d'où sort cette troisième? En fait, vous en prenez en plus une des deux. Exemple, en produit du troisième ordre, puisqu'ici c'était second ordre, j'en avais deux. Troisième ordre, j'en ai trois. Donc je vais avoir trois fois la fréquence 3A et 3B. Je vais avoir deux fois A plus B et deux fois B plus A, qui sont des mélanges pas très perturbants, gênants, mais pas très perturbants. En revanche, je vais avoir des mélanges très perturbants. C'est 2B moins A et 2A moins B qui vont être difficiles à filtrer. Alors pourquoi ils ne sont pas perturbants, ces deux premiers là? C'est que ceux-là, je vais facilement pouvoir les filtrer. Parce qu'en fait, ils sont très loin de ma fréquence d'origine d'émission. Donc je vais facilement trouver un système qui permet de les filtrer. Alors, l'intermodulation n'est pas un larsen. Hein. Un larsen, c'est un signal qui est réintroduit, en fait, en phase ou en déphase. Mais là, en l'occurrence, c'est un mélange. Donc, c'est encore autre chose. Mélange égale multiplication des tensions ou des intensités. Voilà. Donc c'est des multiplications de sinus. Donc c'est un peu compliqué, hein. On va voir ça quand on fera la partie technique. Donc mes deux premiers mélanges là ne sont pas très perturbants parce que je peux les filtrer. En revanche, mes deuxièmes produits, là, mon deuxième mélange, celui-là, je vais être coincé parce que, notamment si A et B sont très proches l'un de l'autre, eh bien en fait, la résultante, là, va être encore très proche. Et donc, cela, je vais avoir du mal à les isoler, à les filtrer. Et donc, j'ai de grands risques d'envoyer le tout, quoi. Et notamment quand je suis en BLU, qui par définition est une modulation à problème. Alors Jordan, tu as eu cette question de produits du troisième ordre en réglementation ou en technique? Tu passeras ça parce qu'il vient de passer un message sur le chat. Et ça m'intéresse de savoir si c'est en réglementation ou en technique. Si on se souvient, hein, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop. La transmodulation, c'est un problème complètement différent. C'est lié uniquement et uniquement au récepteur. Transmodulation, on ne parle que de récepteur. Et c'est quoi? C'est en fait un signal qui est très fort, très puissant, ou à proximité de notre station, si bien que ce signal puissant va complètement surcharger le premier étage d'amplification, qui du coup va encore manquer de linéarité. Voilà. C'est quand même un gros problème. Et donc ce signal qui va donc saturer complètement l'amplificateur d'entrée du récepteur va en fait moduler avec le signal reçu. Alors oui, donc Jordan dit que c'était plutôt vers la fin, donc c'était plutôt dans la partie technique. Ok. En conséquence, le signal qui est très fort, on va l'entendre en surimpression du signal qu'on désire recevoir, et qui évidemment n'est pas absolument pas sur la même fréquence. Donc ce problème de transmodulation, il y a autant tout à l'heure avec l'intermodulation, on avait une relation mathématique entre les fréquences. Là maintenant, on n'en a plus du tout. Et la transmodulation, c'est lié uniquement à des perturbations modulées en amplitude et reçues aussi en amplitude. C'est lié à la modulation d'amplitude. En FM, on n'a absolument pas de problème de transmodulation. Enfin, protection du matériel, ça fait partie du matériel et des personnes. Peu de questions dessus, quelques questions, je vais les donner au fur et à mesure. Les règles de sécurité, ça je préfère, il n'y a pas de questions à l'examen, c'est un peu dommage. Ça serait bien aussi de le rappeler, que de monter sur un pylône, ça peut être dangereux. Alors dangereux pour celui qui monte, mais aussi pour celui qui est en bas du pylône. Hein, je rappelle quand même qu'un tournevis qui tombe de 12 mètres, ça peut faire très mal si on le reçoit sur la tête, ou une simple pince ou une multiprise, donc faire très attention. Évidemment, on monte avec le matériel adapté, typiquement un harnais ou un baudrier, et puis un jeu de mousqueton comme ça, pour se tenir continuellement attaché. Alors évidemment, il faut en avoir au moins deux. Moi, perso, j'en utilise trois. Et donc, on monte avec ce genre d'équipement au pylône. et on est constamment accroché au pylône, et notamment quand on bricole sur l'antenne à 15 mètres du sol. Voilà. Il y a aussi au passage les dangers de la haute fréquence. Inutile de dire que quand vous montez en haut du pylône, bah, vous faites attention qu'il n'y ait personne qui active la station en bas en même temps. Ça sera un peu dommage. Voilà, c'est un peu dangereux. Et enfin, quelques questions sur les dangers de l'électricité. Alors, il y en a quand même peu, enfin, tout au moins la question ici, c'est la tension de sécurité. On rappelle quand même que ce qu'on appelle la tension de sécurité, c'est la tension maximum que l'on peut, où on peut avoir des conducteurs à nu. Et donc quand on est en milieu sec, c'est au maximum 50 volts qu'on peut avoir des conducteurs à nu. Et quand on est en milieu sec, lorsqu'on est notamment en extérieur ou en milieu humide, ça descend à 25 volts. Voilà. Donc c'est pour ça que la plupart des rotors, enfin le matériel qui permet de changer la direction de l'antenne, est alimenté en 25 volts. Donc si on dépasse cette fameuse tension de sécurité des 50 volts, on peut avoir, première étape, des brûlures, donc superficielles ou un peu plus profondes. Et donc ça, c'est des effets de la peau. Donc en clair, c'est le courant qui passe dans la peau et qui vous brûle la peau. Deuxième, un peu plus méchant, c'est l'électrisation. Et donc là, c'est un problème musculaire ou des nerfs. En tout cas, c'est typiquement l'expérience de la grenouille où on lui met une tension sur son muscle de la jambe et on voit que le muscle se contracte. Et donc, avec l'électricité, ça va fonctionner exactement pareil. Donc la première chose, ça va contracter localement le muscle. Puis après, si c'est un peu plus violent, eh bien, ça va contracter les muscles respiratoires, avec quand même un risque d'asphyxie au départ, en plus. Et tout à la fin, bah, c'est la fibrillation du cœur qui peut entraîner un arrêt circulatoire. Et petit rappel, la haute tension, et donc la haute tension, c'est au-delà de 50 volts, hein, est mortelle. Et d'autre part, quand on parle d'électrocution, c'est le décès. Par électrisation. Donc on ne peut pas dire « j'ai été électrocuté ». Si vous dites ça, c'est que vous êtes mort. Voilà. Donc vous dites « j'ai été électrisé » et non pas électrocuté. Et puis, bah, les moyens de protection pour justement contre les dangers de cette électricité, c'est les compartiments fermés dès qu'il y a de la tension. Voilà. Le repérage des fils, attention, si vous voyez un fil marron ou un fil rouge, en règle générale, c'est que c'est une phase, donc faut y aller avec douceur. Le fil de protection, c'est le fil jaune-vert, donc c'est celui-là qui est à la masse. Le neutre, en règle générale, il est bleu. Et évidemment, on met à la terre toutes les parties métallique, notamment quand on est dans un milieu humide ou à l'extérieur. Mais c'est valable aussi quand on est à l'intérieur. Et enfin, la foudre. Qu'est-ce que la foudre? Eh bien, ça peut avoir deux formes distinctes. Soit c'est une décharge électrique entre les nuages et le sol. Alors déjà, entre les nuages. Entre les nuages, c'est des éclairs d'orage, généralement. Alors, en règle générale, terre égale masse. Oui. Terre égale masse. Le jaune vert, c'est ce qu'on va mettre à la Terre. Donc, première chose, ce sont les décharges électriques entre nuages. Ça, c'est typiquement l'orage classique, ça. Deuxième chose qui est un peu plus gênant, c'est la décharge électrique entre les nuages et le sol. Et là, ça, c'est une image d'où la tour Eiffel qui s'est pris un impact de foudre alors, à l'été 2013. Cette photo, elle a été retrouvée sur Internet. Elle a fait pas mal de... On l'a trouvée plusieurs fois. Je pense que c'est une vraie photo. Je pense pas que ce soit un montage. Mais enfin, en tout cas, si c'est un montage, il est très bien fait. Et voilà, c'est assez impressionnant. Et puis enfin, vous avez aussi le statique. C'est-à-dire le fait que votre antenne va recevoir tout le statique qu'il y a dans l'air et va concentrer ce statique dans chaque brin de l'antenne. Et comme il est séparé, et ben vous allez récupérer ce statique dans le câble coaxial et il va arriver jusqu'à votre station, jusqu'à votre émetteur. Donc quand il y a des situations orageuses, je vous conseille de débrancher votre émetteur et de mettre loin tous les câbles coaxiaux pour éviter que, au cas où la foudre tombe pas trop loin, voilà, le disjoncteur, oui, mais enfin, le disjoncteur différentiel, il va sauter, mais il n'y a pas que le disjoncteur différentiel qui va sauter. Si la foudre, elle tombe, malheureusement, il y a aussi le reste. Et donc, pour réduire les risques de foudroiement, on débranche les câbles. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut disposer les câbles, alors, non seulement à la station, mais aussi dans tout le reste de l'installation, de manière à faire des coudes très francs, parce que la foudre n'aime absolument pas, préfère la ligne droite, elle. Dès qu'elle a une ligne droite, elle fonce. Dès qu'il y a un coude, elle s'arrête, elle perd de la puissance. Donc, plus vous avez de coudes et de coudes francs, plus vous avez de chances de ne pas être foudroyé. On peut aussi installer un parafoudre. Alors là, vous en avez différents types. Et en fait, ça s'installe entre ici une terre, donc, qui est adaptée à recevoir des décharges de foudre, et de l'autre côté, ici, la partie, généralement, c'est le pylône ou une partie de l'antenne. En tout cas, ici, là, ça, c'est un isolant qu'il y a là. Donc, ça ne pose pas de problème, il y a ça fait pas court-circuit normalement. Ce n'est qu'en cas de foudre où ce système-là devient conducteur et donc laisse passer tout le courant vers la terre et évacue la foudre. Donc ça s'appelle des parafoudres. Et donc, ce parafoudre-là, comme la foudre n'aime pas les coudes, eh bien, elle doit être reliée au plus droit à l'équipement parafoudre du bâtiment. Si vous êtes sur un... Généralement, c'est plutôt les tours ou les grands immeubles d'habitation où vous avez ce genre de choses. Et donc, Kuma07 qui dit « Je débranche mes aériens et je les mets les fiches » dans des beaux coups de verre avec du liège dedans. Exactement, c'est la meilleure solution. Alors pourquoi ? Alors déjà, c'est un bocal de verre par câble. Donc si vous avez trois câbles qui arrivent à la station, c'est trois beaux coups de verre. Et pourquoi du liège dedans ? C'est pour faire en sorte que lame et la tresse, le liège est un matériau relativement conducteur. Et donc, comme ça permet à ce que ça évacue le statique et que vous ne preniez pas une bourre quand vous retirez les câbles des bocaux. Voilà. Alors moi, je n'utilise pas de bocaux, moi j'utilise des bouteilles, mais c'est pareil, c'est des bouteilles de jus de fruits, des vieilles bouteilles de jus de fruits, et donc je range mes câbles dedans. Et un câble par bouteille. Et donc on met les supports d'antenne à la terre du bâtiment. Mais ça, c'est valable si votre bâtiment est équipé d'un parafoudre. S'il n'est pas équipé d'un parafoudre, évidemment, on ne s'amuse pas à faire ça. Ça, c'est vous qui allez voir avec... vous montez sur le toit, vous voyez bien s'il y a un paratonnerre ou pas. Enfin, tout au moins un parafoudre ou pas. De toute façon, l'installation, je pense qu'il va falloir passer par un professionnel si vous mettez votre antenne sur le toit d'un immeuble. Alors, le mât et le pylône ont un beau plan de masse, ouais, mais ça n'empêche pas que la poudre, elle peut tomber dessus. Et elle aimera bien tomber dessus, d'autant plus qu'il y a tout ce système-là de grillage et tout ça, donc ça fait ça fait une bonne masse pour la poudre. Voilà, donc ne pas trop chercher à l'attirer, cette fameuse poudre. Les questions d'examen, maintenant. Donc on ne reviendra pas sur les questions qu'on a déjà vues, là, sur la PIR, la PAR, etc. On va voir les questions. Par exemple, une ligne bifilaire est 1 symétrique, 2 asymétrique, 3 à haute impédance, 4 utilisée essentiellement en VHF et au-delà. Donc une ligne bifilaire, elle est symétrique et à haute impédance. Elle est peu utilisée en VHF, évidemment elle n'est pas asymétrique puisqu'elle est symétrique. Donc c'est 1 et 3. Utilité d'un balloon 1 sur 1. Donc l'utilité d'un balloon 1 sur 1, donc c'est symétrie-asymétrie de l'antenne, équilibrer les impédances, augmenter la puissance émise et diminuer les parasites atmosphériques. Donc, balloon, je rappelle, c'est balanced, unbalanced, donc ça veut dire symétrie, asymétrie. Donc c'est la réponse 1. Quelle est la fonction de la boîte d'accord? Alors, j'aurais pas appelé ça quelle est la fonction, mais bon. Elle sert à raccorder une antenne à un amplificateur. Aucune. Elle sert à adapter les impédances de l'antenne et de l'émetteur. Elle sert à adapter l'impédance de l'émetteur à l'impédance de sortie de l'antenne. Alors ça, c'est un... Faut la relire à 3 fois, cette question, parce qu'à chaque fois, en fait, ça ne sert pas à raccorder une antenne à un amplificateur. Ça ne veut rien dire. Évidemment, elle a une fonction. La réponse au fil n'est pas bonne, et elle va servir à adapter les impédances de l'antenne et de l'émetteur. Alors là, on peut se poser des questions entre les deux, là, avec la dernière, elle sert à adapter l'impédance de l'émetteur à l'impédance de sortie de l'antenne. Et généralement, c'est plutôt de l'impédance d'entrée de l'antenne, puisque on est dans un émetteur, donc là, l'antenne est plutôt la charge. Ouais, donc le dernier est bizarre. Donc, j'aurais tendance à dire le troisième. Et c'est bien le troisième. La compatibilité électromagnétique est la faculté de... Une antenne à recevoir, un récepteur à recevoir plusieurs bandes, un émetteur à ne pas perturber son environnement, un récepteur à ne pas attirer la foudre. Évidemment, c'est ne pas perturber son environnement. Quelle est la définition de l'intermodulation? L'intermodulation est un mélange de fréquences indésirables générées par un étage ou un composant non linéaire. L'intermodulation est due à la saturation de l'étage RF d'entrée d'un récepteur. L'intermodulation est due à un gain micro trop élevé. Et l'intermodulation est l'autre terme définissant la fréquence image. C'est la première réponse. La deuxième réponse, la saturation de l'étage RF d'entrée d'un récepteur, ça c'est la transmodulation. Et le gain micro trop élevé, ça donne de la surmodulation. Voilà. Et puis enfin, le dernier, là, c'est du grand n'importe quoi. Et là, enfin, des questions sur l'harmonique 3, enfin, l'harmonique, le produit d'intermodulation d'ordre 3, donc c'est une intermodulation du troisième ordre. Hein. Donc j'ai F1 110 et F2 100 kg, donc très proches l'une de l'autre, hein. J'ai 10 kHz d'écart. Quel est le produit d'intermodulation d'ordre 3? Donc ça peut être soit 2 fois F1 moins F2, donc ça va me faire 220 moins 100, donc ça va me faire 120, ou, alors attendez, qu'est-ce que j'ai comme truc là? C'est pas du tout de partir dans tous les sens. J'en ai, ça je le sens bien ça, 310 et 320. 310 c'est quoi? C'est 2 fois 100 plus 110, et 320 c'est 2 fois 110 plus 100. Donc c'est plutôt ce couple-là, 310 et 320, ce qui n'est pas gênant en soi, parce qu'on voit que ce sont deux fréquences qui sont très éloignées quand même de deux d'origine. Et donc, avec un filtrage, on devrait pouvoir s'en sortir. En revanche, par exemple, si les produits d'intermodulation gênants, ça va être 2 fois 110 moins 100, donc ça va me faire 120, qui est quand même proche de 110 et de 100. Et le deuxième, c'est donc 2 fois 100 moins 110, qui me fait 90, qui est aussi très proche. Donc en fait, ces deux mélanges, là, 90 et 120, sont très proches de mes fréquences d'origine, et c'est ceux-là qui vont me poser problème, parce que je vais avoir du mal à les filtrer. Tous les autres vont être sur des fréquences qui sont beaucoup plus élevées, et donc avec un simple filtre passe-bas, je vais pouvoir les éliminer. Voilà les réponses. Là, la question dont on parlait tout à l'heure, donc la tension protection électrique, c'est donc 50 volts. C'est pas les autres. D'ailleurs, il n'y a pas le 25 volts, c'est un peu dommage, puisque le 25 volts, c'est concrètement ce que l'on va utiliser quand on est à l'extérieur ou en milieu humide. Et quand c'est en milieu, dans l'eau. Immergé, c'est 12 volts. Quelle est la couleur d'un conducteur protection d'un câble secteur à 3 conducteurs? Et donc c'est bien le jaune-vert, puisque c'est celui qu'on branche à la terre électrique. À quoi faut-il veiller lors de l'installation d'une antenne sur un bâtiment équipé d'une protection contre la foudre? Eh bien, l'antenne doit être liée à l'installation de protection par le chemin le plus isolé, non. Justement, il ne faut pas que ce soit isolé. L'antenne doit être liée à l'installation de protection par le chemin le plus long, non. Le plus court. L'antenne ne doit pas être raccordée à l'installation de protection. Ben si, justement, c'est absolument obligatoire. Et l'antenne doit être liée à l'installation de protection par le chemin le plus court, oui, et le plus droit. Enfin, généralement, le plus court, ça va avec le plus droit. Mais bon, autant le dire, ça va mieux en le disant. Donc, en évitant de faire des coups de... Voilà. Sur ce, c'est la fin du cours. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.